Vous écoutez, on lit pour vous.
Le mystère de l'amnésie des nourrissons. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 19 juin 2025 dans le magazine Québec Science. Pourquoi ne gardons-nous aucun souvenir de nos premières années? Une nouvelle étude révèle que le cerveau des nourrissons peut forger des souvenirs, mais que leur consolidation et leur récupération restent à s'établir. Tristan Yates se rappelle parfaitement être allé à 2 ans à Disney World en famille et d'avoir posé en photo avec les mascottes Alvin et les Chipmunks. Mais c'est une histoire que j'ai entendue tant de fois de ma mère, je pourrais l'avoir incorporée, admet la neuroscientifique de l'Université Columbia à New York, autrice principale d'une étude sur la mémoire infantile parue dans la revue Science. La plupart des adultes, en effet, sont incapables de se remémorer des événements vécus avant l'âge de 3 ou 4 ans, un phénomène connu sous le nom d'amnésie infantile. On a longtemps attribué ce trou de mémoire à l'immaturité du cerveau. Pour mieux comprendre ce mécanisme, des scientifiques des universités Yale et Columbia ont voulu observer directement les régions cérébrales impliquées dans la formation des souvenirs des bébés. À l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, ils ont montré à 26 nourrissons âgés de 4 à 25 mois une série d'images pendant quelques secondes. Un canyon, un visage féminin ou encore un jouet pour chien. Ensuite, les bébés voyaient de nouveau une image qu'ils avaient déjà vue, associée à une autre qu'ils découvraient pour la première fois, par exemple des chutes d'eau. Nous avons supposé que si les nourrissons se souvenaient des canyons, ils les regarderaient un peu plus longtemps lorsqu'on leur présentait une seconde fois. Et d'ailleurs, au moment de la première exposition, leur hippocampe s'est activé, signalant un encodage, explique la chercheuse. L'étude en conclut que cette région du cerveau, bien connue pour jouer un rôle dans la mémoire chez les enfants plus âgés et les adultes, peut également forger des souvenirs chez les tout-petits. Un mécanisme déjà en place. Pour Sarah Lippé, neuropsychologue à l'Université de Montréal, l'étude est intéressante car elle remet en question l'idée selon laquelle l'amnésie infantile serait due à l'immaturité de l'hippocampe. Cette étude montre que l'hippocampe s'active chez les nourrissons de façon comparable à celle des adultes. Il y a donc un mécanisme biologique qui est en place, souligne la professeure, qui s'intéresse au développement cérébral et cognitif des enfants. Elle n'a pas participé à l'étude. Elle nuance toutefois. Les différentes structures qui soutiennent la mémoire peuvent être développées, mais les connexions entre elles peuvent être encore immatures. L'hippocampe est un relais très important et sa fonctionnalité augmente à mesure que ses liens avec les autres structures cérébrales se renforcent, dit-elle. L'exploit technique de l'équipe tient aussi au fait d'avoir réussi à réaliser l'examen d'imagerie sur les bébés éveillés, ce que personne n'avait accompli auparavant. C'est un vrai tour de force, souligne la professeure. Grâce à des tétines, des jouets et la présence rassurante des parents, Tristan Yates et ses collègues ont pu observer ses facultés insaisissables. Il existe d'autres techniques de neuroimagerie qu'on utilise avec les bébés depuis des décennies, comme les casques à électroencéphalogramme, mais ils ne captent que l'activité cérébrale proche de la surface. Nous nous sommes intéressés à ce qui se passe en profondeur dans le cerveau, ajoute la chercheuse américaine. Que deviennent ces souvenirs? La question demeure. Qu'arrive-t-il aux souvenirs formés dans la petite enfance? Il y a quelques années, des neurobiologistes ont mené une expérience intrigante chez des rongeurs. Ils ont découvert qu'un souvenir formé très tôt dans la vie pouvait rester stocké sous forme de traces latentes dans le cerveau, même si l'animal semblait l'avoir oublié. Plus tard, ces rongeurs ayant atteint l'âge adulte, les scientifiques ont réussi à réactiver ce souvenir en stimulant directement certaines cellules de mémoire grâce à l'optogénétique, une technique qui utilise la lumière pour contrôler l'activité d'un neurone. Reste à savoir s'il est souhaitable de récupérer ces souvenirs formés entre 0 et 2 ans. Nous savons, grâce à d'autres travaux, que les expériences précoces influencent le développement émotionnel et comportemental futur, souligne-t-elle. Pour Sarah Lippé, la priorité est ailleurs. Ce qui importe, c'est de comprendre comment ces souvenirs se forment et s'organisent dans un cerveau en développement. Chez certains, les premiers souvenirs émergent plus tôt, chez d'autres, plus tard. Et rien n'indique que se rappeler d'événements très précoces ait un impact mesurable sur nos capacités cognitives, rappelle-t-elle. En attendant, elle encourage les parents à soutenir le développement de la mémoire chez les tout-petits, en les incitant à raconter leur journée dès qu'ils peuvent parler, ou commentant le journal de bord de la garderie, par exemple. Des gestes simples, mais essentiels, pour aider les enfants à structurer leurs souvenirs et à bâtir progressivement leur mémoire épisodique. C'était « Le mystère de l'amnésie des nourrissons », un texte de Laurence Niozzi, paru le 19 juin 2025 dans le magazine Québec Science.
Nouveau prof, première rentrée. Un texte de Louise Leduc, paru le 27 août 2025 dans La Presse. François Pelletier aspire à être enseignant depuis longtemps. Il est excité, stressé, fébrile, tout comme les enfants qui entrent en classe aujourd'hui. Pour la toute première fois, comme il en a tant rêvé, François Pelletier, fraîchement diplômé de l'Université de Montréal, aura sa classe à lui et ses élèves à sa charge. La semaine d'avant, François Pelletier s'affairait à organiser sa première rentrée comme enseignant. Comment disposer les pupitres? Où placer le coin lecture? Que prévoir les premières journées pour bien accueillir les enfants? À l'heure des pénuries de personnel et des coupes, à l'heure où le discours ambiant décourage sans doute bien des jeunes d'étudier pour devenir enseignant, François Pelletier, lui, y aspire depuis la troisième secondaire. Le défi devant lui ne s'annonce pas mince. Sitôt sorti de l'université, il se voit confier une tâche qu'évitent les enseignants qui jouissent d'une plus longue ancienneté. Il hérite d'une classe jumelée, quatrième et cinquième année du primaire combiné, et de surcroît, dans un secteur défavorisé du centre-sud de Montréal, à l'école Garneau. Il a accepté cette classe en toute connaissance de cause, car c'était pour lui la seule chance d'obtenir un poste dans l'établissement qu'il convoitait fortement. « J'ai tellement aimé cette école où j'ai fait mon stage, j'ai tellement apprécié cette équipe que je voulais vraiment m'y retrouver », explique-t-il. « Je suis bien accueilli par mes collègues qui sont vraiment des passionnés. Je vais les observer. Je sais aussi qu'ils vont beaucoup m'aider. S'assurer d'un bon accompagnement est important, puisque les jeunes disent souvent, quand ils abandonnent l'enseignement, qu'ils ont manqué d'encadrement. Les risques du métier relativisés. François Pelletier ne se met pas de lunettes roses. Il sait que la tâche sera quand même costaude. À son tout premier stage, il a été témoin, chez les plus jeunes, d'une élève en agressant une autre de façon très violente. Il est aussi conscient de la violence que les enseignants subissent eux-mêmes, mais il relativise. Comparativement à d'autres métiers, dit-il, on ne risque pas notre vie tous les jours. Bien qu'avec un simple ballon, une commotion cérébrale est vite arrivée, ou un décollement de la rétine, comme c'est arrivé à un de ses camarades nouvellement en poste. Le jeune enseignant entreprend aussi sa carrière fort d'une expérience particulièrement marquante. Pendant ses études, il a fait un stage de 2 mois dans une école au Sénégal. Il y avait en moyenne 50 à 60 élèves par classe, et j'ai su que dans ce pays, ça peut aller jusqu'à 80-90 élèves par classe, relate-t-il. Le stage lui a fait prendre conscience qu'on peut faire énormément avec très peu de moyens. Au Sénégal, les enseignants ne disposaient pas de beaucoup plus que de tableaux noirs, de crayons et de papier. Et l'école, parfois, se faisait à l'extérieur, sous les arbres, raconte-t-il. Vivre une telle expérience lui a donné confiance, lui démontrant que s'il est parvenu à enseigner en Afrique avec si peu de moyens, il y arrivera ici aussi, poursuit-il. Malgré les coupes et le manque de personnel, il estime que les ratios élèves-enseignants sont très corrects au Québec, particulièrement en les comparant avec des pays moins favorisés. On a des classes plus petites et davantage de moyens, rappelle-t-il. Je pense qu'on a donc la responsabilité d'en faire plus pour accompagner les élèves en difficulté. C'est l'une de ses grandes priorités. Ne laisser aucun enfant derrière. S'assurer que chacun se sente inclus, accepté. Le défi de la planification. A-t-il des craintes particulières avant de commencer? La gestion de classe? La discipline? Ça lui fait peur? Pas tant, répond la recrue. Il a bon espoir d'y arriver en établissant des liens solides avec ses élèves, d'autant plus qu'il n'en a que 18. Son plus gros défi, confesse-t-il, c'est l'organisation, la planification. Pas le choix. La classe jumelée l'obligera à s'améliorer sur ce plan, se dit-il. On se refait une petite entrevue en fin d'année pour savoir comment s'est passé ton baptême de feu? Lui demande-t-on à la fin de la rencontre. Il est partant. On vous redonne des nouvelles de François en fin d'année. Il nous racontera, entre autres, s'il s'est suffisamment méfié des ballons et si son enthousiasme est intact. C'était « Nouveau prof, première rentrée », un texte de Louise Leduc, paru le 27 août 2025 dans La Presse.
Les éditions Libère en 10 questions. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires. Plutôt méconnue du grand public, les éditions Libère méritent pourtant qu'on s'y attarde. Décider de consacrer un dossier à la philosophie, c'était nécessairement choisir d'y inclure enfin une place à cette maison qui, depuis plus de 3 décennies, soumet des ouvrages d'une grande utilité pour toute personne intéressée à connaître, à comprendre, à savoir, à se mouvoir, à s'adapter dans notre monde en perpétuel changement. En 10 tours de piste, nous avons demandé à Giovanni Calabrese, le fondateur et directeur éditorial de Libère, et à Micheline Gauthier, l'actuelle directrice générale, de reparcourir quelques jalons de leur histoire. 1. Vous consacrez votre ligne éditoriale aux essais philosophiques. N'est-ce pas un pari risqué? Philosophie et sciences humaines et sociales, oui. Risqué, du point de vue éditorial ou symbolique, pas du tout. Nous ne publions ni ouvrages séditieux, ni guides de fabrication d'engins explosifs. Du point de vue financier, nous ne faisons pas exception à l'existence sous perfusion des entreprises dites culturelles. Et puis, au reste, chacun fait ce qu'il est capable de faire. 2. Les éditions Libère existent depuis près de 35 ans. Comment l'aventure a-t-elle débuté? C'est un simple résultat du cheminement personnel de Giovanni Calabrese qui tient compte aussi bien de sa formation, de ses intérêts intellectuels et de ses compétences professionnelles. 3. Qu'est-ce qui gouverne vos choix dans la publication de vos ouvrages? Les critères habituels, la compatibilité des propositions avec la mission de la maison, l'apport de la réflexion à la compréhension de la réalité étudiée, la lisibilité du texte et le sentiment d'une confiance mutuelle entre auteur et éditeur. Les critères de nationalité, d'idéologie, de sexe ou de régime alimentaire ne jouent pratiquement aucun rôle dans le choix. 4. Comment décririez-vous l'âme de la maison? Il est difficile de décrire les choses invisibles. Disons que Libère est une maison exigeante, mais qui ne l'est pas? 5. Quels sont les plus grands défis auxquels doit faire face une maison d'édition comme la vôtre? Les difficultés sont de divers ordres. L'une d'elles est la rareté relative, comparativement à ce qui a lieu en matière de romans, de poésie ou de bande dessinée, de matière publiable. Les auteurs dans nos domaines ne courent pas les rues et les bons manuscrits non plus. Les lecteurs ne sont pas des consommateurs, mais le plus souvent d'autres producteurs. Ce qui ferme un peu le réseau sur lui-même. Le défi, si vous voulez, serait de l'élargir aussi bien en amont qu'en aval. On n'a pas encore trouvé la façon miraculeuse d'y arriver. 5. Pouvez-vous nous présenter 3 titres phares de chez Libère? Cela serait injuste et arbitraire. Nous avons tout de même publié, dans un livre de livres intitulé « Hommage de l'éditeur », 5 essais brefs. Jacques Baudry, Le fantôme du monde, Christophe Etemadzadet, L'orgueil qu'on enferme, Éric Gagnon, Les promesses du silence, Louis Godbout, Hiérarchie, Laurent-Michel Vaché, Dialogue en ruine, qui donne une idée, non pas tant de notre catalogue, que des formes très variées que peut prendre le genre essai. D'une certaine façon, ce sont des livres phares pour les éventuels auteurs d'essais. 7. Quelle relation entretenez-vous avec vos auteurs? Les meilleures possibles. Les relations avec les auteurs ne devraient pas être autres que bonnes. Sinon, aussi bien ne pas se lier et, si par erreur on l'a fait, se séparer au plus vite. 8. Que pensez-vous de l'univers de l'édition québécoise en 2024? A-t-il beaucoup changé depuis la création de Libère en 1990? Difficile à dire. Du point de vue technique, les changements sont évidents. Du point de vue professionnel, comment en juger? On est peut-être passé d'une génération à l'autre, comme cela a été chaque fois le cas auparavant. La culture semble être faite sur nos terres, par une suite de générations qui se succèdent sans se prolonger. 9. Qu'espérez-vous pour l'avenir des éditions Libère? Qu'elles puissent en avoir un. 10. Pouvez-vous nous parler de 2 titres parus cette année? Là aussi, il est délicat de choisir. Mais comme nous publions peu, nous pouvons vous énumérer les nouveautés de cet automne. Horizon de l'être d'Éric Gagnon, une réflexion sur la mort et le désir. L'expérience démocratique de Daniel Desjacques, vaste essai qui éclaire le chemin de la démocratie à l'heure où on tend à en oublier les fondements et les paradoxes. Critique du régime de croissance, une traduction de l'italien de Onofrio Romano, sur les dérives de la croissance, mais aussi sur celle des décroissantistes qui la dénoncent. Du texte au livre, éloge de l'édition de Giovanni Calabrese, qui se passe de commentaires. Le premier tome des premiers Canadiens de la Nouvelle-France à la Révolution de 1837-1838 de Jacques Houle, qui remonte la mémoire nationale de l'origine à la Révolution de 1837-1838. Bonne lecture. Pierre Delorme, auteur et professeur honoraire à l'Université du Québec à Montréal, a fait la rencontre de l'éditeur Giovanni Calabrese en 2009 pour un projet de publication. Rapidement, les deux hommes en sont venus à dépasser le simple cadre éditorial et ont élargi leur discussion vers des sujets concernant les domaines de la connaissance, les spécificités de la langue, du livre et de l'édition. La situation s'est avérée analogue lorsque, plus de 10 ans plus tard, Delorme revoit Calabrese pour l'élaboration d'un autre livre. La richesse de leurs échanges donnant à nouveau ses fruits, il émet le souhait de forer davantage les zones de dialogue afin d'en extraire une matière substantielle, susceptible de plaire à un lectorat curieux et friand d'ébullition intellectuelle. Ce livre en est donc le résultat concret, donnant la chance aux lecteurs et lectrices d'assister en quelque sorte à la conversation entre les deux interlocuteurs tout en pouvant à loisir se permettre des pauses pour approfondir ses propres constats. Faisant tôt ses bagages, Giovanni Calabrese quitte l'Italie, son pays natal, et atterrit au Québec en pleine révolution tranquille. C'est ici qu'il travaillera au service des idées, créant une maison accueillante où convergent des plumes vives et clairvoyantes. C'était les éditions Libère en 10 questions, une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.
« 11 octobre. Journée internationale de la fille. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'ONU. La vision des filles pour l'avenir. La génération des filles d'aujourd'hui est touchée de manière disproportionnée par les crises mondiales liées au climat, aux conflits, à la pauvreté et au recul des acquis durement obtenus en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes. Trop de filles sont encore privées de leurs droits, ce qui restreint leurs choix et leur avenir. Pourtant, des analyses récentes montrent que les filles ne sont pas seulement courageuses face à la crise, mais qu'elles sont aussi pleines d'espoir pour l'avenir. Chaque jour, elles agissent pour concrétiser la vision d'un monde dans lequel toutes les filles sont protégées, respectées et autonomes. Mais les filles ne peuvent pas réaliser cette vision seules. Elles ont besoin d'alliés qui les écoutent et répondent à leurs besoins. Avec le soutien, les ressources et les opportunités adéquats, le potentiel de plus de 1,1 milliard de filles dans le monde est illimité. Et lorsque les filles montrent la voie, l'impact est immédiat et de grande portée. Les familles, les communautés et les économies sont toutes plus fortes et notre avenir plus prometteur. Il est temps d'écouter les filles, d'investir dans des solutions éprouvées qui accéléreront les progrès vers un avenir où chaque fille pourra réaliser son plein potentiel. Contexte. En 1995, lors de la Conférence mondiale sur les femmes à Beijing, les pays ont adopté à l'unanimité la déclaration et le programme d'action de Beijing, le plan directeur le plus progressiste à ce jour pour la promotion des droits des femmes et des filles. La déclaration de Beijing est la première à appeler expressément les droits des filles. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré dans la résolution 66/170 le 11 octobre, Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. La Journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Les adolescentes ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une éducation, non seulement au cours de leurs années formatrices critiques, mais aussi une fois devenues femmes. Si des filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Travailleuses de demain, mères, entrepreneurs, mentors, chefs de famille et dirigeantes politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère. un avenir dans lequel elles auront la part égale à la moitié de l'humanité afin de résoudre les crises liées aux problèmes du changement climatique, des conflits politiques, de la croissance économique, de la prévention des maladies et de la viabilité mondiale. Les filles brisent les barrières posées par les stéréotypes et l'exclusion, notamment celles liées aux enfants handicapés et à ceux vivant dans des communautés marginalisées. En tant qu'entrepreneurs, innovatrices et initiatrices d'un mouvement mondial, les filles créent un monde pertinent pour elles et pour les générations futures. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, ODD, adoptés par les dirigeants mondiaux en 2015, constituent une feuille de route pour des progrès durables et ne laisser personne de côté. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes font partie intégrante de chacun des 17 objectifs. Ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles dans tous les objectifs que nous parviendrons à la justice et à l'inclusion, à des économies qui fonctionnent pour tous et au maintien de notre environnement commun aujourd'hui et pour les générations futures. Le saviez-vous? Près d'une fille sur cinq ne termine toujours pas le premier cycle de l'enseignement secondaire et près de 4 filles sur 10 ne terminent pas le deuxième cycle de l'enseignement secondaire. Environ 90% des adolescentes et des jeunes femmes n'utilisent pas l'Internet dans les pays à faible revenu, alors que leurs pairs masculins ont 2 fois plus de chances d'être en ligne. Dans le monde, les filles âgées de 5 à 14 ans consacrent chaque jour 160 millions d'heures de plus que les garçons du même âge aux soins non rémunérés et au travail domestique. Les adolescentes continuent de représenter 3 sur 4 des nouvelles infections par le VIH chez les adolescents. Près d'une adolescente mariée, partenaire, sur 4 âgée de 15 à 19 ans, a subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime au moins une fois dans sa vie. Même avant la pandémie de COVID-19, 100 millions de filles risquaient d'être mariées au cours de la prochaine décennie. Aujourd'hui, au cours des 10 prochaines années, jusqu'à 10 millions de filles supplémentaires dans le monde risquent d'être mariées alors qu'elles sont encore enfants en raison de la pandémie de COVID-19. C'était 11 octobre, Journée internationale de la fille. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'ONU.